Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagiwal Mills. Dagiwal Mills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagiwal Mills.
Père, merci pour la bénédiction d'aujourd'hui. Merci de nous avoir guidés par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de nous avoir dirigés. Tu as parlé à notre cœur, en train de changer notre situation, et tu nous fais avancer. Merci parce que personne ne sera trouvé au même endroit après ce culte. Merci pour ta présence surnaturelle. Élevez vos mains, demandez à Dieu de vous toucher, d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos yeux. Oui, nous te donnons la gloire et les louanges au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, psaume 71. Psaume 71, verset 19. La Bible dit, « Et ta justice, ô Dieu, est haut, ô te lever, toi qui as fait de grandes choses, ô Dieu, qui est comme toi. » Verset 20, « Toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. » Dieu est en train de dire ici à quelqu'un que malgré les problèmes que tu as vus et malgré la profondeur que tu peux sentir en toi-même, il dit, il va te faire remonter hors des profondeurs de la terre. Amen. Ceci est ta prophétie aujourd'hui. Et verset 21, « Tu multiplieras ma grandeur et tu te tourneras, tu me consoleras. Je prophétise à tous les os secs dans cette maison qui ont vu des troubles qui sont écrits au verset 20. » Ah oui? Il a dit, de nombreuses et amères détresses. Si tu vis pour un peu longtemps, tu seras capable aussi d'écrire les psaumes. Parce que quand tu es jeune, tu ne vas pas comprendre la plupart de ces choses. Mais quand tu vis pour longtemps, un peu longtemps, tu seras capable d'écrire des psaumes. Parce que les psaumes sont des chansons, des chants. Il dit, toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses, et tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. Donc, oui, les choses ne brillent pas toujours, les choses ne sont pas toujours lisses. Des fois, les problèmes que nous voyons, des fois, on se demande si on a été sélectionné pour ces problèmes. C'est comme si quelque chose t'a identifié et ça t'amène des problèmes après problèmes. Mais je prophétise selon la parole de Dieu à quelqu'un que il multipliera ta grandeur et il te consolera. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit, il s'appelle le consolateur. Et quand j'étais jeune, je challengeais Dieu pour ce nom qu'il avait donné au Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais pourquoi ce nom? Parce qu'il devrait donner au Saint-Esprit un autre nom plus puissant que ça. Mais alors que nous vivons, on se rend compte que on a besoin du Saint-Esprit pour nous consoler. Et je prophétise, quoi que ce soit le problème par lequel tu marches, Dieu est en train de te consoler. Et sûrement, il multipliera ta grandeur. Père, je te rends grâce. Tout le monde, commencez à prier maintenant afin que cette écriture s'accomplisse dans votre vie. Merci Seigneur, que tu vas multiplier ma grandeur et tu te tourneras et tu me consoleras. Ça veut dire que tu vas me consoler, tu vas me multiplier dans tout domaine, tout département de ma vie, tout aspect de ma vie. Dieu libère les anges de consolation. Il est en train de guérir ta situation douloureuse. Il est en train d'augmenter et multiplier ta grandeur. Recevez-le au nom de Jésus. Et cette écriture se réalisera de manière pratique dans votre vie au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Que tout le monde au son de ma voix est destiné pour la grandeur, est destiné pour la consolation, est destiné pour la restauration. Nous te rendons grâce et nous te rendons louange au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Et maintenant, le message d'aujourd'hui est capable de vous amener jusqu'à 2 semaines. Parce que c'est un message très important que vous ne pouvez pas assimiler juste pour un moment. Luc chapitre 15, je suis en train de parler de comment faire réaliser des prophéties dans votre vie. Et la prophétie dont nous parlons, c'est la prophétie de ta grandeur. Et nous sommes tous dans une même direction et c'est la direction de la grandeur. Tout le monde répète, dit la grandeur. C'est une seule chaussée. OK, il y a pas d'autres chaussées de l'envers ou bien contraire et ce message est un message très important et j'aimerais vous supplier ceux qui sont en train d'écouter live en direct et ceux qui écoutent par d'autres méthodes. Ce message est la clé ou bien ce sont des clés maîtresses pour la grandeur et tous les points que je vais donner vous concernent dans une manière ou d'autre. Luc, chapitre 15, verset 11. Et il dit, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en allant dehors à un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là et celui-ci l'envoyait dans ses champs pour paître ses pourceaux. Il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim, je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou et se couvrirent de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Oui, parce qu'il y a certaines choses quand vous faites. Vous n'êtes pas réellement des fils. Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds et amenez le veau gras, tue-le, et mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère. Or, son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait à la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce qui c'était. Et il lui dit, ton frère est venu. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père, étant sorti, le pria. Mais lui répondant, dit à son père, « Mais voici, tant d'années que je te sers, jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bon cher et se réjouir car celui-ci, ton frère, était mort et il est revenu à la vie et il était perdu et il est retrouvé. » Je vous avais dit, Dieu va vous donner la vie. Amen. Voici l'histoire que j'ai commencé à prêcher quand Dieu m'avait oint depuis Souhoum, la ville de Souhoum. C'est le message que j'ai commencé à prêcher en 1988. Et vraiment, c'est un message spécial à moi. Et je crois que cette histoire aussi donne ça donne vraiment certaines choses sur Jésus-Christ, quelque chose qui montre vraiment que Jésus-Christ n'était pas juste un homme, mais il n'était pas Dieu. Parce que tu ne peux pas être un homme ordinaire et partager une telle histoire. Parce que cette histoire est trop vraie. À partir du verset 11 jusqu'à verset 32, ça parle. Donc, il est important que je fasse des commentaires de cette histoire merveilleuse en 2017, aujourd'hui. Et dans cette histoire, nous avons deux personnes, deux garçons, un homme avec deux fils. Un était devenu très grand, l'autre est devenu très pauvre. Parce qu'à la fin de l'histoire, il y a un qui n'avait rien. Et à l'autre garçon, il a dit, son père a dit, tout ce qui est à moi est à toi. C'est le secret qu'il a dit à son fils aîné. Et le plus jeune, quand il partait de la maison, il a dit à son père, Il a dit, donne-moi le bien qui m'appartient. Donc, il a tout utilisé. Mais maintenant, il était un pauvre homme qui était plus pauvre même que les serviteurs de son père. Mais les deux ont tous commencé au même endroit. C'est comme quand on arrive au péage, toutes les voitures arrivent là-bas, tout le monde aime ralentir. Et ce n'est pas vrai, mais il y a des différentes voitures, différents chauffeurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprend. C'est comme les courses. Mais après le péage, on voit la différence entre eux. C'est comme les courses des chevaux. Ils commencent tous au même endroit, mais au fur et à mesure, on voit la différence entre les chevaux. Tout le monde commence au même endroit, mais quand on progresse, on voit la différence. Donc voici la course de vie. Mais aujourd'hui, c'est le jour que toi, tu seras choisi comme celui qui sera riche à la fin de la course de la vie, qui sera béni et prospère au nom de Jésus. D'accord? Donc, il y a plusieurs clés maîtresses qui se trouvent dans cette histoire. On va voir certaines choses dans la vie des deux garçons. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, quelqu'un dit quoi? Un taxi est comme un véhicule de police. Ça peut faire un demi-tour, ça peut faire S, ça peut s'arrêter n'importe où. Il disait que sa voiture, quelqu'un disait que sa voiture était comme un véhicule de policier. Ça peut s'arrêter n'importe où, ça peut faire des demi-tours, ça peut faire des S-tours. Et chaque chrétien doit être capable de faire comme un véhicule de policier. À chaque moment de ta vie, tu dois être capable de faire un demi-tour, tu dois être capable de faire un S. Parce que des fois, tu auras besoin de faire S, parce que là où tu es bloqué, même si tu fais demi-tour, ça ne peut pas aider. Donc, tu dois faire une tour de S pour pouvoir sortir. Hey! Tout tourne que tu dois faire dans la vie pour t'échapper, que tu arrives à faire ça au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Donc, regardons ces clés maîtresses et puis assurez-vous de sortir de ce culte aujourd'hui comme quelqu'un qui deviendra prospère et riche et béni par quelqu'un qui sera trouvé en crise. Amen. Numéro un.
Do not follow the ways of youth.
Numéro un, ne suis pas les voies de la jeunesse. La jeunesse. Psaume 25, verset 7. C'est une clé maîtresse. La Bible dit, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions selon ta gratuité. Souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. Donc dans cette écriture, nous voyons qu'il y a certaines choses que les jeunes font. Il y a des gens aujourd'hui qui sont habillés dans les pagnes, mais vous n'avez aucune idée de comment elles étaient lisses, elles portaient des habits sexy quand elles étaient jeunes. Mais aujourd'hui, elles ont grandi maintenant, elles portent des pagnes. Vous serez étonnés. Donc, David dit, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Maintenant, en 2 Timothée chapitre 2, 22, la Bible dit, mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice. Donc, un jeune aussi peut fuir les convoitises et aussi il peut poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, en tant qu'un jeune qui deviendra grand, tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui sont spécifiquement des problèmes pour des jeunes, la jeunesse. D'accord? Vous voyez? C'est OK quand tu es un mauvais garçon, une mauvaise fille, et puis tu fais un demi-tour pour changer. C'est bien, mais Dieu reconnaît aussi ceux qui ne tracent pas ce chemin de mauvaises choses-là. Et des fois, quand tu fais des mauvaises choses avant de devenir une bonne personne, tu vas attirer certains problèmes dans ta vie. De quel problème c'est, des fois, ça sera difficile de sortir ou bien... Des fois, des problèmes que nous avons en tant qu'adultes, ce sont des problèmes que nous avons commencé ou bien nous avons eu depuis la jeunesse. Ce sont des problèmes qui vivent avec vous pour longtemps. Les problèmes de la jeunesse. Donc, si tu t'amuses quand tu es jeune, oui, tu peux faire un demi-tour un jour et dire, je m'excuse, je suis désolé, j'ai changé. Mais il y a beaucoup de choses qui vont te hanter et ils vont te suivre, pas seulement des mémoires. Pas seulement des mémoires. Il faut penser au-delà des mémoires. Ce sont des choses qui seront comme des fléaux dans votre vie. Et ils vont vous affecter pour toute votre vie. Donc, un jeune peut poursuivre, vous voyez, en 2 Timothée chapitre 2, 22, il a dit, mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice. Donc, un jeune peut aussi poursuivre la justice, même quand on est jeune. La virginité est possible. La pureté est possible en tant que jeune. Quand un vieux ou une vieille est pure, c'est pas si grand comme un jeune. C'est pas une grande chose comme un jeune ou une jeune. Et mais personne même ne te regarde pas en tant qu'un vieux ou une vieille, même quand tu dis tu es pure. Les gens ne te poursuivent plus. Les gens ne te poursuivent plus et tu dis que tu es pure. Oui. Mais personne ne te poursuit plus et puis tu dis que tu es pur. Donc, honnêtement, soyons sérieux. Quand tu dis que maintenant tu es juste, tu es pur, maintenant ta forme Coca-Cola n'est plus là, tu es devenu comme une canette et tu dis que tu vis en pureté. Hey! Alors, un jeune peut aussi poursuivre la foi, la charité, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent l'Éternel d'un cœur pur. Donc, Ecclésias chapitre 12, verset 1, mettez ça. Ecclésiaste 12, 1, la Bible dit, « Souviens-toi de ton Créateur, dans les jours de ta jeunesse. » Donc, il est bon de se souvenir de ton Créateur quand tu es sur ton lit en train de mourir à l'hôpital, ou bien quand tu es en train de mourir ou tu es vieux, ou bien quand tu n'as pas de travail à faire. Vous voyez? Mais regarde à quel âge est-ce que la Bible nous dit de se souvenir de notre Créateur. Pourquoi? Parce que ça va affecter ton avenir. Il dit, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Vous vous souvenez quand le pasteur Chris Oyakhilome était venu au Ghana? J'étais avec lui et il m'avait dit qu'il était le leader d'un groupe de partage, une communauté de chrétiens quand il était au lycée. Oui. Quand il était au lycée. Je ne sais pas si c'était la ligue biblique, mais je suis sûr que c'est la même chose. Vous comprenez? Oui. L'évêque Oyedepo de l'église des vainqueurs, la même chose. Ils étaient des chrétiens depuis leur jeunesse. Donc, tu peux penser que oui, je vais aller en enfer et revenir et puis je vais commencer à servir l'Éternel. Mais peut-être tu n'auras pas la chance, tu vas mourir. Ou bien tu vas mourir et tu ne veux pas sortir. Il y a un film que j'ai regardé une fois. Le titre, c'est Flatliners. Il s'agit des étudiants de l'école médicale, ou bien l'école de médecine. Ils étaient en train d'injecter des gens avec les anesthésies pour les faire dormir. Et puis, ils les revivent afin qu'ils ravivent. Et puis, ils mettent l'anesthésie. Quand la personne est en train d'entrer dans le sommeil, ils ravivent la personne. Et il y a un moment où tu mets l'anesthésie et puis la personne n'arrive pas à se réveiller. Je t'assure, si tu n'as pas un cœur vraiment dur, tu ne peux pas regarder ce film-là. Tu peux jouer avec certaines personnes et tu vas voir que tu ne seras pas capable de retourner. Et dans le film, je pense qu'il y a un sur qui il faisait l'expérience et il est mort et il n'a pas pu rentrer dans la vie. Hein? C'est comme si vous êtes en train de jouer avec l'anesthésie, les gens sont vous êtes en train de rendre les gens inconscients, vous connaissez comment ça marche. Donc, peut-être que tu seras en train de jouer la folie avec beaucoup de choses, mais tu vas voir qu'un moment viendra, tu ne peux pas faire un demi-tour. Donc, souviens-toi de ton Créateur. Dans ta jeunesse, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui sont en train de poursuivre Dieu. Poursuivre Dieu à partir de leur jeunesse. Pas comme s'ils sont rentrés dans la vie, ils ont fait des mauvaises choses et maintenant ils sont en train de faire des demi-tours. Non. C'est pas comme les gens qui sont en train de faire se mettre sur l'influence de l'anesthésie et puis ils aimeront se lever encore pour voir comment ça fait. Non. Comme Michael Jackson. Michael Jackson était décédé à cause de ça. On lui avait donné des médicaments pour le faire dormir. Et puis, des fois même, il y a des médicaments qu'on donne aux gens qui les rendent un peu, comment on appelle, la vertige, surtout quand on fait l'endoscopie pour pouvoir opérer sur les gens. Tu peux jouer avec certaines choses au certain niveau et tu ne veux plus revenir. Donc, il y a certaines personnes qui servent Dieu à partir de leur jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit de fuir les convoitises de la jeunesse. Ne dis pas que j'aimerais essayer, voir si je suis viril. Et puis, quand je vois que okay, je suis viril, et puis je vais maintenant, je serai maintenant vierge. Peut-être la personne avec qui tu vas faire le rapport sexuel est remplie de mauvais esprits. La semaine passée, j'étais en train de vous expliquer la rage, les maladies des chiens. Et je vous avais expliqué que c'est une chose physique. C'est pourquoi il ne faut pas avoir des charmes, il ne faut pas avoir des gris-gris. Parce que la Bible même dit de ne pas quoi? Imposer les mains sur les gens soudainement, parce que même contact physique peut transférer des mauvais esprits à la personne. Oui, il transfère des esprits mauvais. Je me souviens d'une sœur qui témoignait et elle a dit, j'ai forniqué avec un bon nombre de personnes, mais elle dit que à partir d'un certain gars, elle dit, elle a couché avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Mais il y a un particulier, il y a une personne particulière. Après avoir accouché avec cette personne, elle a constaté que sa vie avait changé. Ça veut dire que toutes les autres personnes n'avaient pas transféré d'esprit à elle. Mais il y a une certaine personne dans sa vie qui a transféré des esprits en elle. Donc, il est possible de se souvenir de Dieu en tant que jeune. Et c'est une des clés de maîtresse, des clés maîtresses à la grandeur. Parce que la Bible dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père. Donc c'est le plus jeune qui a dit, le plus âgé, il avait de sens. Il a dit, donne-moi la part du bien qui me revient. Donc c'était le plus jeune qui a totalement détruit sa vie en suivant les péchés de la jeunesse. Donc, je vous dis, si tu es une jeune fille, garde ta virginité. Si tu l'as, si tu ne l'as pas, il faut garder ta virginité secondaire. Ça veut dire que tu dois garder ta virginité à partir de maintenant. Ça, c'est, tu es une vierge secondaire. Ah oui. C'est un type de vierge. Par exemple, vous pensez que je suis en train de chosiner des paroles, mais même quand on parle de la stérilité, et ça c'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter, mais si quelqu'un, après avoir eu son premier né, à un moment donné, la personne n'arrive pas à avoir un enfant, on appelle ça stérilité secondaire. Est-ce que ce n'est pas vrai, les médecins? Tous ces gens assis devant ici sont des médecins. Demande-leur. Donc, quand je dis être vierge secondaire, ça veut dire que peut-être dès le commencement, tu avais perdu ta virginité. Mais maintenant, c'est une nouvelle condition qui te vient à partir de maintenant. Au nom de Jésus, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Donc, la jeunesse, la vie de débauche, faites attention et il faut décider que en tant que jeune, maintenant, tu te comportes comme un vieux. Moi, j'ai pensé tout le temps comme un vieux. Il y a certaines choses que j'ai fait, c'est seulement les vieux qui font. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ceux-là, ce sont des vieux qui font ces choses-là. Et moi, j'ai fait ces choses. Et vous vous demandez quels sont des exemples des choses que j'ai fait. Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas vous donner les exemples. Ah oui? Mais vous voyez, une des choses que j'ai fait, je pense toujours à l'éternité. Tout ce que j'ai fait, je pense à l'éternité, oui. Si je ne pensais pas à l'éternité, je n'allais pas faire certaines choses. Je n'allais pas prêcher dans une certaine manière, je n'allais pas me comporter dans une certaine manière. Et je ne pense pas aux choses terrestres. Mon affection est sur des choses, mes désirs sont des choses célestes. Une fois, je parlais à quelqu'un et je lui ai dit, tu sais, tu penses que je ne connais pas l'argent? Je connais l'argent, mais... OK, donc, il faut croire que toi, en tant que jeune, tu peux avoir la sagesse d'un vieux, oui. Et c'est possible. Tu seras comme un vieux dans un corps jeune. Recevez cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Numéro 2. Je donne des clés maîtresses. Ne marche pas dans les voies de jeunesse. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Ne demande pas à ce qu'on te donne des choses qui appartiennent à l'avenir. Ne demande pas à ce qu'on te donne des choses qui appartiennent à l'avenir. Il ne faut même pas demander. La Bible dit, le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Donne-moi la part du bien qui me revient. » Vous voyez? Ton père a travaillé tout au long de sa vie et tu vois que maintenant, il possède telle chose. Et toi, tu viens et tu dis, tout ce que tu as pour moi, tu ne vas pas attendre à ce que papa meure. C'est comme si toi, tu ne peux pas attendre. Alors, avoir des choses qui appartiennent à l'avenir, coûte ce que coûte, tu allais avoir. Parce que toutes ces choses sont pour vous, ce sont pour toi. Mais quand tu te forces d'avoir des choses qui appartiennent à l'avenir, maintenant, ça va te détruire. Parce que tu ne peux même pas gérer ces choses-là. L'amour. Tu veux être aimé, mais ce n'est pas encore l'heure, le temps d'être amoureux. Mais tu veux tomber amoureux. Mais tu n'es pas arrivé à l'heure ou bien au temps, à l'heure d'être amoureux. Hein? Tu veux un garçon pour t'aimer. Tu as 19 ans. C'est comme si tu ne peux pas te marier pour longtemps. Donc, à l'âge de 16 ans, 17 ans, tu veux entendre « Je t'aime ». Tu veux entendre « Tiens-moi, porte-moi, aïe, baise-moi, touche-moi, aïe ». Mais tu n'es pas encore arrivé à l'heure. Écoute, écoute, c'est pour toi. Quelqu'un viendra pour t'aimer, mais toi, tu veux ça maintenant. Le sexe. Le sexe, le rapport sexuel, c'est pour toi. Ce soir, quand tu seras en train de te laver, il faut regarder, voir. Tous les organes de sexe sont tous là. Et ils sont prêts et capables. Et ils sont là pour une chose. Mais tu veux l'avenir maintenant. Donne-moi ce qui appartient à l'avenir maintenant. Oui. Hey. Donne-moi l'avenir. Quelque chose que les âges, les plus âgés font. C'est ça que tu veux faire. Tu vois une fille et quand tu la vois marcher, elle ressemble à une femme qui s'est mariée pour 15 ans. Mais elle n'a que 19 ans. Mais elle connaît tout. Hein? Mais comment est-ce que tu connais tout? Tu as pris la chose qui appartient à l'avenir et tu as amené ça maintenant et tu es en train de faire ça maintenant. Et à chaque fois que tu fais ça, tu es en train de te diriger vers... Tu ne peux pas gérer toutes ces choses-là. Avant que tu ne te rendes compte, tu es enceinte. Et maintenant, tu dis que j'ai été enceinte 4 ou 3 fois. En train d'avorter les enfants ici et là. C'est très mauvais. Donne-moi l'avenir. Tu te laves avec les hommes âgés, avec des gros ventres. Hein? Dans l'avenir, tu vas te laver avec ton mari. Mais maintenant, tu veux te laver maintenant avec des hommes. Hey! Tu es en train de saisir l'avenir par force. Le chose qui appartient à l'avenir, tu dis, donne-moi maintenant. Parce que mes organes sont en marche, ils travaillent. Donc, donne-moi ces choses-là maintenant. Pour toi, tu dois éjaculer coûte que coûte, n'est-ce pas? Mais tu as appris ça où? Tu dois rester... En tant que célibataire, sans éjaculer. Oui. Quand le temps vient pour l'éjaculation, tu vas éjaculer régulièrement. Mais vous voyez, vous pensez que je suis en train de blaguer, je ne sais pas. Hé, hey, regarde. Quand le temps vient, tu vas éjaculer. Mais tu veux éjaculer maintenant. C'est pourquoi maintenant tu es un accro à la masturbation. Tu es un accro de masturbation. Parce que quelque chose qui appartient à l'avenir, quand tu es marié, maintenant en tant que jeune célibataire, tu veux ça maintenant, mais tu n'es pas marié. J'ai besoin de ce sentiment maintenant. Tu te vois se masturber, tu te vois se masturber 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et tu vois maintenant tu es devenu anormal, tu n'es plus normal. Ta vie est en train de changer parce que tu forces l'avenir. C'est pas parce que Dieu garde ça de toi. Il va te le donner. Mais tu es en train de dire que ça doit être maintenant. Maintenant. Hey! Tu veux coucher avec un homme. Pour toi, Écoutez, si tu veux coucher avec un homme, il n'y a pas de problème. Hein? Quand tu vas te marier, mais pour toi, tu dis que ça doit se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mon hostel, même avec ma camarade de chambre qui est toujours dans la chambre, je vais avoir le rapport sexuel aujourd'hui et maintenant. Ça doit se passer en direct cet après-midi. Donne-moi mon bien qui me revient maintenant. Ou bien ma prédication n'est pas pratique. C'est pas pratique, n'est-ce pas? Ce que je dis n'est pas pratique, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas très bien ce que je dis, n'est-ce pas? Donne-moi la part du bien qui me revient maintenant. C'était sûr, ils étaient deux. Donc sûrement, un appartient à son frère et lui aussi. Mais lui, il voulait... C'est pourquoi maintenant tu es devenu un accro de la pornographie, parce que tu as besoin de ça maintenant. Tu veux ça maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous pousse à devenir des accros, un accro de pornographie, un accro de masturbation, Dieu vous délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. La prochaine fois que tu vas éjaculer sera la lune de miel. Je suis en train de programmer la date pour ton éjaculation prochaine. Dis à ton voisin, l'homme est au courant que tu es ici. Alors, il est en train de te parler d'une manière prophétique. Si tu vas te marier en 2020, là maintenant, on dit quoi? Le temps d'attente d'éjaculation. Le temps d'attente d'éjaculation, ça c'est T-A-E. Temps d'attente d'éjaculation, ça sera 2020. Donc, il faut fermer ta boutique. Asseyez-vous. Hey! Vous êtes là ou bien vous êtes déjà parti à la maison? Les clés maîtresses à la grandeur. Ne prends pas ton avenir aujourd'hui. Et vous voyez, les gens détruisent leur vie. Et ils ôtent d'eux-mêmes la grandeur. Ils disent, je dois avoir l'argent que je dois voir. En l'avenir, dans l'avenir, je dois avoir cet argent maintenant. Donc, ils partent chercher des prêts. C'est pourquoi les gens sont pauvres. Il y a une raison universelle pour laquelle les gens sont pauvres. C'est les prêts de la banque. Et aussi, les gens aussi disent, je dois avoir la maison. Je suis sûr que Dieu va me bénir avec une maison dans l'avenir, mais je veux la maison maintenant. C'est ça qui pousse les gens pour aller chercher les hypothèques. Ces hypothèques détruisent leur vie. Il faut demander aux hommes d'affaires. C'est ça qui détruit les hommes d'affaires. Je dois avoir la voiture. La voiture dont je n'ai pas l'argent aujourd'hui pour acheter, mais je dois l'avoir aujourd'hui, maintenant. Ce garçon-là, vous voyez, en Luc chapitre 15, 11, son histoire commence. La Bible dit, un certain homme avait deux fils. En verset 2, sa vie était déjà détruite. Quand il a dit à son père, donne-moi la part du bien qui me revient. C'était la fin de sa vie. Je dois faire le rapport sexuel maintenant. Je dois avoir l'amour maintenant. Je dois avoir ma maison maintenant. Je dois avoir une voiture maintenant. Je dois avoir l'argent maintenant. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Toute la pauvreté, même la pauvreté de Ghana, Si tu me vois lever les fonds, je dis, nous sommes en train de lever les fonds pour acheter des baffles. Les gens n'ont pas d'argent pour donner. Et la raison, c'est quoi? Ce sont des prêts, des prêts. Donc, vous voyez, mon beau-père, il avait l'habitude de dire, c'est mon épouse m'avait dit, il dit, quand tu vois les gens rouler des belles voitures, il dit, ne soyez pas impressionnés. Ce sont des prêts bancaires. Quand tu vois quelqu'un en train de rouler une très belle voiture, demande-toi, est-ce que c'est un prêt de la banque ou bien c'est un vrai... C'est, ou bien quand tu vois quelqu'un habiter dans une belle maison, demande-toi, est-ce que c'est une vraie maison? Dans notre église ici, nous apprenons, écoutez, tu n'es même pas qualifié d'être dans six voitures merveilleuses. Tu n'es pas qualifié. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Mais écoute, tu dois avoir une certaine voiture. Tu dois la même chose avec le gouvernement. Dès qu'il entre, dès qu'ils sont au pouvoir, tout le monde est l'encruseur. Dès qu'ils viennent, ils n'ont même pas commencé à travailler. Ils commencent à acheter des nouvelles voitures. Et ils achètent. Et le pays ne peut pas avancer. C'est pourquoi il y a le chaos partout. Parce que maintenant, les gens voient que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont des ils prétendent. Il y a des types de voitures, France au revoir, des voitures seconde main, des maisons usées, des endroits. À une certaine étape de ta vie, tu es qualifié pour ces choses-là. Tu dois rester à habiter dans les trous, habiter dans les ténèbres des quartiers où les gens ne connaissent pas. L'évêque Oyedepo aujourd'hui, qui a des avions privés, l'un de ses témoignages majeurs, c'était qu'avant, il avait une voiture VW Coccinelle. Et il était très content avec ça. Il disait toujours qu'il était béni quand il avait cette voiture-là. Et voici ce qu'il avait à cette étape de sa vie. Tu te forces pour devenir quelque chose que tu ne l'es pas. Tu n'es pas encore là. Donc, tout au long de ta vie, chaque fois que tu te tends, pour avoir ce que tu dois, tu allais avoir dans l'avenir, mais tu veux ça maintenant. La destruction, ta destruction commence. Ce garçon, tu vois, juste dans le verset 12, sa fin avait déjà commencé. On ne devrait même pas lire jusqu'à la fin. Il faut décider d'être humble. Moi, j'ai vécu dans une maison qui n'était pas encore complète pour des années. J'étais qualifié à cette époque-là à vivre dans une maison comme cela. La première maison où j'ai vécu, c'était comme ça. Même il n'y avait même pas le béton pour lequel on pouvait mettre les pieds. C'était rempli de sable partout. Maintenant, comment est-ce que je peux être pauvre? Je ne suis pas allé chercher un prêt quelque part pour construire. Personne ne m'a emprunté l'argent pour faire. Oui. Quand tu n'es pas là, il faut arrêter de prétendre que tu es déjà arrivé. Amen. Numéro 3. N'abandonne pas ta place. Et ainsi, déclarer à tout le monde que tu es fidèle. Il faut écrire ça comme tu l'entends. N'abandonne pas ta place et ainsi déclarer à tout le monde que tu es fidèle. Mais ce garçon n'était pas fidèle. Être fidèle, ça veut dire être stable. Mais il a dit, la Bible dit qu'il a voyagé, vous voyez, il a tout pris, c'est comme si je ne reviens plus. Il a quitté la maison. Proverbe 20, verset 6. Nombre d'hommes proclament chacun sa bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Proverbe chapitre 20, verset 6. Vous voyez? Regarde ce verset et garde ce verset à l'écran afin que tout le monde voit. Tout le monde dit que, oh, je suis bon. J'ai parlé à certaines personnes qui voulaient quereller avec quelqu'un et j'ai dit, la personne ne pense pas qu'il est une mauvaise personne. Tout le monde pense qu'il est bon. Quand il y a des querelles entre des couples, des bien-aimés, des pasteurs, des églises, tout le monde croit que, et il prie que Dieu sait que moi je fais ce qui est juste. Est-ce que tu penses que tu es une mauvaise personne? Est-ce que tu penses que tu es une mauvaise personne? Yeah. Mais il y a certaines personnes qui pensent que tu es une mauvaise personne. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes avec toi. Certaines personnes qui sont énervées à cause de toi. Alors que toi, tu es assis, tu te sens vraiment bien. Il y a certaines personnes aussi qui sont en train de penser que tu es bizarre. Mais toi aussi, tu penses de toi comme quelqu'un qui est très bon. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui plaidoie sa cause premièrement, et c'est lui qui sonne comme la vérité. Mais quand on entend la deuxième partie, tout le monde dit, « Hey, il y avait une deuxième partie aussi à cela. » La Bible dit, « Nombre d'hommes proclament chacun sa bonté. » Mais comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est fidèle? La Bible dit à verset 20 qu'un homme fidèle qui peut le trouver. Donc, quand tu es bon, tu es rempli de bonté, on peut voir ça à travers ta fidélité. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui ne change pas. La Bible dit, qui peut trouver une bonne personne? C'est pourquoi dans chaque organisation, quand tu as été là pour longtemps, et même si tu ne fais pas bien ton travail, on respecte le fait que tu as été là pour longtemps et on te respecte pour ça. Quiconque est fidèle, qui reste pour longtemps, c'est ça. La personne est une bonne personne. Oh oui. Juste la fidélité. Et par la grâce de Dieu, gère des pasteurs dans notre église que je peux décrire comme. Je sais qu'ils sont des bonnes personnes. Des pasteurs laïcs surtout et des pasteurs qui sont dans le ministère plein temps aussi. Parce qu'il y a une caractéristique. Être là. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, mais la question, est-ce que vous serez là en 10 ans? Vous voyez, un de nos pasteurs qui est décédé, je vais aller à ses funérailles. Vous me voyez, moi, je n'aime pas assister aux funérailles. Déjà, cette culture ghanéenne-là, Dieu ne croit pas que des funérailles sont des événements sociaux où on doit aller forcément pour aller rencontrer des amis, des vieux amis, et puis être content. Mais je ne veux pas être content aux funérailles de quelqu'un comme ça. Vous pouvez dire que je suis un blanc. Bon, je ne regarde pas là. Mais je me souviens, la première branche de notre église en Suisse, le premier jour où j'ai commencé, ce pasteur, il était là. Le premier jour de notre première branche de cette église, il était là. Jusqu'au dernier jour quand il a quitté cette terre. Ça fait déjà 25 ans. Il n'a jamais même fait 3 mètres en dehors de l'église. C'est ça seulement qu'on peut utiliser pour voir qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Mais toi, tu as été là pour combien d'années? C'est une fille, un garçon vient te parler avec une voix basse et puis c'est tout. Avant que tu ne te réalises, tu dis que maintenant je pars à une telle église. Wow. Donc, c'est facile de proclamer ta propre bonté. Vous voyez, le fils qui était plus âgé, il n'avait rien accompli, mais juste rester à la maison, il était un bon gars. Oui, voici comment on voit les gens qui sont bons. Voici comment trouver les plus bonnes personnes qui sont avec moi. Depuis la première, l'évêque Saki, l'évêque Adi, et puis les autres qui sont autour de moi, ils ont été là. Quand les choses ne marchaient pas, mais vous êtes venus quand tout marche bien. Même dans le monde, on peut voir qui est bon à travers celui qui a été là dès le commencement. Quelqu'un qui n'a pas bougé dès le commencement. Donc, il faut apprendre et décider. Une fois, il y avait un des ingénieurs qui travaillait à l'église. Ils étaient en train de construire l'église. Et il était en train de dire aux maçons de bien dresser les choses. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai l'intention de rester dans cette église et mourir ici. Donc, quand je serai ici et je meurs, il a dit aux maçons de dresser bien le travail, les carreaux, afin que quand il sera en train de porter son cercueil pour l'enterrer, et il sera en train de sortir de l'église, personne ne va glisser, personne ne va tomber. Donc c'était sa pensée. Il voulait être là. C'est facile à être là, être content. Mais est-ce que tu seras là pour toujours? C'est la manière de trouver ceux qui sont bons. Parce que j'embauche des gens. Hein, il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes. Tu ne peux pas prétendre ne pas voir leur présence éternelle. Ils sont toujours là. Leur présence éternelle. Ceux qui vacillent. Les gens qui vacillent. Et si quelque chose se passe aujourd'hui, tu pars. Quelque chose se passe là-bas, tu pars. Je me souviens hier, quand les gens dans le ministère du théâtre étaient en train de faire, je me suis souvenu de Tiku. Vous vous souvenez de Tiku? On a eu des gens qui étaient venus, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Nous avons besoin des gens qui seront présents, éternellement présents. Qu'est-ce que vous pensez? Les gens qui seront là pendant quand le temps est bien, le temps est bon, quand le temps n'est pas bon, la Bible dit que tout le monde peut dire, oh, moi je suis bon, je suis bon. Mais la Bible dit, comment est-ce que tu peux trouver une telle personne? La Bible dit qu'un homme fidèle, j'aimerais voir quelqu'un qui est fidèle. Quand je suis avec toi, je peux dire que non, telle personne, il est bon. Parce que n'importe comment on va faire, on va verser l'eau sur toi, on veut te secouer, on va tout faire. Quand on va ouvrir les yeux, tu es toujours là. Tous les disciples ont quitté Jésus. Jésus a vu les 12, il a dit, vous allez partir. Ils ont dit, nous allons partir où? Ne nous demande plus cette question, nous sommes toujours avec toi. Donc j'aimerais vous dire quelque chose. Reste et restez fidèles à vos paroles. Quoi? J'ai toujours aimé le Seigneur. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire. Ça fait des jours. Donc tout le monde peut dire, moi je suis bon, je suis bon. Mais comment est-ce que nous connaissons des gens qui sont bons? Alors, vous tous qui chantez, quand vous êtes venus, vous voyez? Il ne s'agit pas de bien chanter. Aïda, elle chante pour moi depuis qu'elle était à l'école. Elle était en première année, oui, juste quand elle avait fini le lycée. Elle n'a pas commencé de chanter, pas aujourd'hui. Donc, vous pouvez chanter très joli, bien, mais un homme fidèle, c'est ça qu'on cherche. Si tu y restes pour longtemps maintenant, là, je me souviens de Curtis, on le cherchait, on ne le trouve pas. Quand on était à Legon Hall, ils ont dit, il y a un frère, il s'appelle Curtis, il n'est pas là. J'ai dit, il est où? On dit, non, il n'est pas là, il est parti à Téma. On dit, oh, la semaine prochaine, il va venir, il a commencé à venir. Oui. Et maintenant, ils ont été là pour un moment. Oui, c'est facile de venir chanter comme un star, mais la fidélité, on va te châtier, on va te menacer, on va te faire... Nous sommes dedans. On n'a nulle part à aller. Ça, c'est la clé maîtresse de la grandeur. Depuis la première fois, j'étais allé à Action Chapel. Je n'ai pas fréquenté Action pour longtemps, mais si j'ai fait 10 fois à Action, L'archevêque me connaissait. Je n'ai pas duré là-bas. Je n'ai jamais brisé ma relation avec lui. Même ce matin, je l'avais appelé pour lui souhaiter, pour lui souhaiter une bonne, bonne fête des pères. Et rien ne peut changer mes relations avec lui. Je dis à ceux qui sont autour de moi que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut mieux de quitter maintenant parce que je n'ai pas besoin de leur contribution pour rester avec l'archevêque. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Bien sûr, il sera une grande personne. Ok? Donc, vous avez combien de clés? Combien de clés? Maîtresse? Trois. Dans les trois clés à tête voisin, numéro un. Vous avez donné les trois clés. Quatrième clé. Luc 14 maintenant. Luc 15. La clé suivante. Ne t'éloigne pas de la présence du Père. Verset 13 de Luc 15. La Bible dit, et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors d'un pays, jusqu'à il a eu ses hypothèques, dès qu'il a eu. Et la Bible dit, après peu de jours, il s'est éloigné. Pourquoi s'éloigner? Donc, tu peux voir que ceux qui sont éloignés, leurs vies sont différentes de ceux qui sont proches. C'est un principe éternel. Même au Ghana, les rues qui sont proches du palais présidentiel sont plus belles. Mais les rues qui sont trop loin... Ah, yeah. C'est ça. Parce que la rue est trop loin. Vous voyez? Donc, encore, la grandeur est connectée à qui, de près de qui tu es. Je ne pense pas que le président Akufo-Addo avait choisi des gens pour occuper certaines positions très sensibles, les gens qui sont loin de lui. Non, il a choisi les gens qui sont proches. Hey, si tu me fais un président, je sais déjà qui sera les ministres. Je les connais tous, ils sont là. Je les connais. Ministère de la jeunesse et des sports. Même vous allez connaître même qui seront des ministres. Vous tous ici, vous serez des ministres. Alors, la Bible dit que il s'en alla dehors, à un pays éloigné. Il faut décider de ne pas être quelqu'un qui est loin. Il faut être prêt. Il faut toujours être là. Il faut dire quelque chose. Il va falloir que tu sois présent, qu'on te connaisse. Ne dis pas que je suis là, mais moi je suis derrière. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour ta vie. Il a pris son voyage, il s'est éloigné de son père. C'est comme si je ne veux pas être près de mon père. Quand tu es près et proche, on voit tes fautes. Et souvent, personne ne veut qu'on voit ses fautes. Hein? Personne ne veut qu'on le corrige. Tu vois la raison pour laquelle maman te corrige, il te menace tout le temps. Parce que tu es proche d'elle. Elle te dit de laver tes habits. Elle te dit de te laver parce que elle voit que tu n'aimes pas te laver. Une jolie fille comme toi, mais tu n'aimes pas te laver. Quand tu es loin, personne ne te réprimande. Si tu es loin, personne ne peut te réprimander. Si je te vois, je serai en train de parler de bon français avec toi. Mais si tu es proche, je peux même te frapper quand tu es proche. Mais quand tu es loin,
Tu ne peux pas recevoir des réprimandes, des châtiments. Donc, ceux qui sont loin, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. C'est pourquoi ils se ferment et ils s'éloignent. Oui. Faut décider. Je serai prêt. N'importe où tu te trouves. Hein? Tu peux être loin dans un autre pays. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui sont plus proches de moi que ceux qui sont même ici dans ce pays. Donc, il faut décider d'être proche parce que ce sont les étapes. Ce sont les étapes qui vont t'aider à perdre ta grandeur. Et tu t'éloignes de ton père. C'est pourquoi j'ai laissé certaines personnes qui sont dans l'école biblique de venir ici si vous voulez. Parce que je me suis rendu compte que quand tu es loin, tu es déconnecté de ce qui se passe. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Loin! Tu es trop loin pour te corriger. Tu es trop loin pour te dire que telle chose est en train de mourir dans ta vie. Il y a certaines personnes, tu auras besoin de quelqu'un qui va venir tenir ta chemise et dire, cette chemise doit aller, cette chemise-là doit aller, cette chemise doit partir, cette chemise doit disparaître. Cela, ceci doit disparaître. Hein? Ça peut seulement venir quand tu es proche. Sinon, si tu es loin, on va te saluer seulement. Tu n'auras pas l'air correct, mais quand on te voit, on va dire, oh, hello. Même si tu es devenu un surpoids, on va dire, oh, tu es très mince. Donc, il ne faut pas t'éloigner de la présence. Et Dieu va prendre ta vie et il va faire remonter ta vie. Le peu de temps que j'ai fait à Tulsa, Oklahoma, j'ai fait Tulsa, Oklahoma 3 fois. Mais est-ce que tu peux imaginer, j'ai pu interagir avec Kenneth Hagin lui-même. J'ai pris des photos avec lui. Je ne suis jamais allé m'asseoir au balcon. On voulait m'amener là-bas. J'ai expliqué au gars, écoutez, je viens de loin et j'étais venu dans un avion. OK? Un avion de 8 personnes. Je ne peux pas aller loin. Je me suis monté dans un avion dangereux pour arriver ici. Je dois m'asseoir devant ici. J'ai semé une semence. On m'avait fait entrer dans dans une chambre intérieure 3 fois que j'ai été là. À plus forte raison si j'étais là pour 20 ans, pour 20 fois. Certains, vous avez ici, ça fait plus de 100 fois, mais tu es toujours derrière. Numéro 5.
Do not waste your position.
Ne gaspille pas ta position.
Amen.
Amen.
Do not waste your position.
Ne gaspille pas ta position.
Now, many times God gives you a position.
La plupart du temps, Dieu te donne des positions. Il ne faut pas le gaspiller. La gaspiller. Ne la gaspille pas. Quand tu t'éloignes, tu es en train de t'éloigner de ta place. Ah oui? Et c'est très difficile de reprendre ta place quand tu laisses ta place. C'est très difficile. Quiconque a une position, même en relation à moi et de moi, et tu t'éloignes de cette position, ça sera difficile à venir parce que les gens, il y a d'autres qui sont prêts à remplir ta position. Si Madame Saki était revenue en vie, ça fait déjà 10 ans, si elle était revenue en vie aujourd'hui, sa position, ce qu'elle va faire, où elle était, cela a été déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc, les gens ne valorisent pas leur position. Tu fais quelque chose, il dit, oh, j'ai fait seulement ça, ce n'est pas quelque chose. Tu penses que Aida est seule, elle est la seule chante. Il y a déjà d'autres, des autres avant elle. On a même fait des albums. Dès que tu te déplaces, très vite, quelqu'un d'autre prend ta place. Les positions sont comme ça. C'est comme monter une montagne. Il faut valoriser tout endroit où Dieu te met comme en tant que fils, tu es numéro 2. Tu vois, ce n'est rien. Et tout est loin. Je vais m'éloigner de tout ce n'importe quoi. Quand tu vas t'éloigner, tu vas voir que les n'importe quoi que tu appelais là, c'est ça, c'était la chose principale. Debo, lève-toi. Comment est-ce que tu peux te connaître? Maintenant, je te connais. Tu as une place. Tu as une place. La plupart d'entre vous, je vous connais par nom. Mais je n'allais pas vous connaître. Je n'allais pas vous connaître. Mais je vous connais. Tu as une place. Mais si tu t'éloignes, assieds-toi. Père, je prie que telle chose ne va pas arriver dans sa vie. Assieds-toi. Je n'aime pas utiliser les exemples comme ça parce que les exemples que j'utilise dans le passé ont été prophétiques. Nous supprimons ça dans le nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, je ne veux pas donner ma position à quelqu'un. Là où Dieu m'a placé, je serai permanent et je vais monter même en haut. Je ne vais pas donner des exemples, sinon je vais vous donner des exemples. Comment certaines personnes qui étaient là se sont déplacées, quelqu'un d'autre a rempli. Je vais vous montrer tout. Alors, ta position est sécurisée dans le nom de Jésus. Mais ce qui fait que les gens laissent leur position, c'est parce qu'ils ne valorisent pas la position. Il y a certaines épouses, vous ne savez pas la bénédiction d'être Madame Gabra. Wow. Madame quelconque. Madame G. Madame Asamoa. C'est une bonne chose, une grande chose d'être marié à Monsieur Iceberg. Tu dois valoriser ça. Tu dois l'honorer. Tu dois prosterner devant lui et dire, Monsieur, je suis content d'être marié à toi. Mais si tu ne valorises pas ton mariage comme Vashti, le roi est en train de faire une fête, il a dit, viens mon épouse, viens te montrer aux gens que tu es belle. Écoutez, aujourd'hui, les gens allaient dire, mais comment est-ce que tu peux appeler à ton épouse de venir? Il y a 4000 ans d'aujourd'hui, quand on faisait toutes ces choses-là, de venir modeler, elle ne portait pas des slips. Si elle était venue faire ça, elle allait garder sa position. Il y a certaines personnes, si tu traverses certaines lignes, c'est fini. Vashti a traversé trop loin. Et c'était ça qui était le point de tournant de sa vie. Et son mari a dit, non, j'ai changé d'avis. Et tu ne peux plus changer mon avis de changement. Tu ne peux plus changer mon avis de changement que j'ai déjà fait, effectué dans. Dis à quelqu'un, je valorise la position dans laquelle Dieu m'a mis et tu es en train d'aller vers la grandeur. Numéro 6. Ne choisis pas la mauvaise style de vie. Luc 15, 13. La Bible dit, et peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, s'en allant dehors à un pays éloigné, et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tu es en train de choisir un style de vie? Mais toi, tu vas choisir quel style de vie? Il y a le style de vie des riches et des renommés. Il y a le style de vie des mauvais garçons, le style de vie de mauvaises filles, le style de vie des fêtes, le style de vie de quoi? Le style de vie de boire, le style de vie de mode, le style de vie de prétendre tout le temps saper et puis faire des chaussures, le style de vie des garçons, le style de vie de un garçon d'après d'autres. Ça commence et puis ça continue. Tu vas voir, tu seras dans les quarantaines, tu seras grosse et tu es toujours tu seras en train de changer de garçon. C'est un style de vie. Donc, tu dois choisir ton style de vie, le style de ta vie. Tu dois le choisir. Mais lui, il a choisi un style de vie de débauche. Le style de vie d'être contrefaçon. Contrefaçon prospérité de quelque chose qui n'est pas vrai. Dieu vous montre aujourd'hui, il faut choisir le bon style de vie, la modestie. Tu dois le choisir. Oui. Il y a certaines choses, j'aimerais donner un exemple, mais je ne peux pas. Suivant. Numéro 7. Ne cherche pas les symboles de la richesse, mais il faut avoir la vraie richesse. Maintenant, quand le gars était revenu, on lui avait donné un anneau. On dit, porte l'anneau. On lui a dit, faut lui donner des nouvelles chaussures, de nouvelles robes, un veau gras, des fêtes, des mélodies et danses. Ce sont les symboles de la richesse. Mais la vraie richesse appartenait à son grand frère. Le grand frère n'était pas dans... Il ne portait pas l'anneau, les voitures, la prétence. Son père a dit, tout ce que j'ai t'appartient. Ah oui? Vous voyez, il y a des gens qui aiment choisir la richesse contrefaçon pour montrer des symboles de la richesse, mais ils n'ont rien. Si tu es dans la richesse, montre-moi ta maison et montre-moi le fait que tu ne dois pas d'argent et ta capacité de donner. Mais ce n'est pas venir faire exhibition des habits, des sapés. Les pauvres aiment se saper pour montrer que ah ouais, ils démontrent la richesse de l'extérieur pour montrer les champs, mais ils n'ont rien. Mais vous regardez les champs assises dans des belles voitures, des quartiers poches. Mais ils n'ont rien. Tu peux voir quelqu'un qui a quelque chose. Quand la personne donne, tu vois des entreprises, ils ont ça. Mais la réalité d'être prospère, ce n'est pas par ta voiture. Ah! Quand mon père est décédé, il a donné son Mercedes à ma soeur. Mais ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit. Mercedes. Ça va se vieillir maintenant. On te révèle par une robe, une voiture, mais, des chansons, les danses, un anneau. Ce n'est rien. Tu n'es rien. Donc, ceux de First Love, vous serez des gens de substance. Pas seulement des gens qui vont donner une impression de l'extérieur d'avoir quelque chose, mais on va avoir la vraie richesse. Vous allez construire des maisons avec des vraies propriétés, pas seulement des symboles de la richesse. Comme les gens qui montrent, qui impressionnent les gens de l'extérieur, mais ils n'ont rien. Les gens qui n'ont rien, comme s'ils ont quelque chose, mais il n'y a rien. Vous devez apprendre ça quand vous êtes jeune. Parce que les gens qui sont déjà vieux, ils ne peuvent pas faire un demi-tour. Même les banques, les entreprises, même le gouvernement est entré profondément dans les dettes. Aujourd'hui, ils considèrent ça comme un accomplissement, même d'aller chercher des prêts. Mais moi, je ne considère pas ça comme un accomplissement. Mais le gouvernement est entré dans les dettes parce que maintenant, quand il part prêter de l'argent, il voit ça comme un accomplissement. Je vais considérer ça comme un accomplissement si je peux construire moi-même des rues avec le béton, avec mon propre argent. Ça, c'est un accomplissement. Plus que avoir des prêts de la Chine et puis vous faites la rue et puis ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, cela n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas mon style de vie. Le pouvoir n'est pas des voitures. Le pouvoir n'est pas d'avoir des voitures. Si tu ne savais pas ça, il faut apprendre ça maintenant pour pouvoir être vraiment prospère. La plupart d'entre nous, ce que nous savons, c'est la manière d'impressionner les gens de la manière africaine. Porter des habits glissants, lissants. Faire les anniversaires, faire des fêtes, des funérailles, vous venez avec des Land Cruiser pour montrer puissant l'argent, s'habiller avec des choses spéciales, hey, avec des montres. Les montres qui coûtent $50, $40, des dollars, 40 000, 50 000 de dollars. Les gens disent, waouh, c'est ça, ah ouais. Le sapeur. Mais c'est très étonnant. Même les Suisses qui fabriquent les montres là, eux-mêmes, ils ne portent pas. Donc à partir d'aujourd'hui, vous êtes déclaré les hommes, des femmes de vraie prospérité et pas prospérité symbolique. Et quand vous suivez ces choses-là, vous allez voir que suivant, vous allez voir que c'est toi, à cause de ta fidélité, tu seras prospère. Même pour se marier, si je dois choisir, il y a certaines personnes, vous ne savez pas, quand je suis là, dans la nuit même, quand je suis là, je pense, je vois vos visages. Oui. Juste être là, ça fait que le pasteur voit qu'il y a un besoin ici. On doit résoudre ça maintenant. Vous êtes prophétiquement déclaré grand au nom de Jésus. Numéro 8, il faut construire ta maison sur le roc afin que quand les crises, les famines arrivent, tu peux te tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit une grande famine survint dans ce pays-là. La famine va venir, mais quand la famine vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois obéir. Sinon, quand la famine vient, la famine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la famine veut dire plus de quelque chose. Plus, il n'y aura plus de quelque chose. Ça, c'est une crise. Quand personne ne te parle plus de rien. La famine, ça veut dire pas de nourriture. Donc quand il y a le silence, il y a une famine de conseils, famine de parler, famine des instructions, famine de conseils. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes que je prêche aux jeunes. Maintenant, avant, je parlais à eux. Maintenant, je ne les parle plus. Donc, ils sont en train d'expérimenter dans leur vie une saison de famine. Personne ne t'aide plus. Ça, c'est la famine d'aide. Personne ne te donne plus. Ça, c'est la famine de donner. Famine de cadeaux. Famine de conseils. Famine d'appel. Personne ne t'appelle plus. la famine d'être désiré. Personne ne te veut plus. Ça, c'est la vraie crise de la vie. Mais vous voyez, si la maison est sur le roc, la Bible dit qu'une grande famine, une grande famine, quand tu construis ta maison sur le roc, un jour je serai silencieux. Je ne serai pas ici. Vous n'allez plus me voir, je ne vais plus parler. Quand la famine arrive, c'est là on voit qui tu es. Un temps viendra où je ne vais pas dire quelque chose à quelqu'un. Vous n'allez plus entendre ma voix. Personne ne va vous aider. Personne ne va étendre sa main pour vous aider. Est-ce que vous allez toujours servir Dieu? Quand la famine est arrivée, le garçon a commencé à trembler. Il y a des famines dans la vie. Et quand ces famines arrivent, c'est là qu'on voit la différence entre les garçons et les hommes. Donc, vous devez être fort. Vous devez construire votre maison sur le roc. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque entendra mes paroles est comme un homme qui écoute mes paroles et qui les garde. Et quand l'orage, quand les tempêtes, l'inondation, sa maison était toujours tenue debout. Tu dois être quelqu'un qui est construit sur la parole de Dieu. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, ton père avait raison. Toi, tu avais tort. Tout ce que ton père faisait, son père faisait et disait, était raison. C'est lui qui avait tort. Mais à la fin, nous avons vu que le petit avait tort. Les gens qui viennent, qui disent que je m'excuse, j'avais tort, pardonne-moi. Écoutez, personne n'est content. Personne n'est content quand tu viens parler beaucoup de tout ça. Dès le commencement, quand tu avais commencé, tu avais tort. Toutes ces périodes-là, tu avais tort. Donc, il avait admis qu'il avait tort, mais il avait admis quand tout était déjà détruit. Donc, il faut décider en tant que croyant que tu vas suivre la parole de Dieu. Parce que les famines viennent aussi à ceux qui font ce qui est juste. Peut-être l'enfant plus âgé, lui aussi, il a expérimenté la famine, mais lui, il était solide, solidement placé sur son père. Les choses financières. À un moment donné, peu importe, ça ne compte plus. À une certaine étape de la vie, tu vas voir que ton monde autour de toi sera en train de s'effondrer. Les choses conjugales. Aujourd'hui, il y a une main forte qui te bouge, qui te pousse. Fais ceci, fais cela. Mais un temps viendra. Il n'y aura pas cette main à côté pour te diriger. Et à ce temps-là, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. C'est là qu'on voit la différence. Oui. Oui, je suis toujours vivant. Mais je me suis rendu compte qu'il y a la famine des paroles envers certaines personnes. Je me suis vu que d'une manière intentionnelle, je fais exprès, je ne parle plus à certaines personnes. C'est dangereux. Une famine des paroles. Une famine des paroles. C'est seuls ceux qui ont appris d'obéir la parole, obéir à la parole de Dieu, qu'ils puissent tenir. Certaines personnes, même après des conseils de vos parents, regardent comment votre vie est devenue. Votre vie sont devenues. Et maintenant, à plus forte raison, quand il y a le silence. Mesdames et messieurs, donc voici le point suivant. Le point suivant, ne fais pas ce qui n'est pas juste. Ne fais pas ce qui n'est pas juste et après tu reviens pour dire que j'avais tort. Fais ce qui est juste. Est-ce que vous êtes là? Ne pêche pas. Ne fais pas la mauvaise chose. Après tu dis oui, vous savez, j'avais tort. Oui, c'est vrai, vous avez dit ça, c'est vrai. Vous aviez raison. Certaines personnes n'ont jamais écouté des paroles et obéi sans évidence. Je suis triste pour vous dire, il y a certaines choses. On ne veut pas vous donner des évidences. Il y a des fois, j'ai essayé d'expliquer aux gens avec les illustrations, avec des explications. Et Dieu m'a dit, tu ne dois plus parler. Tu ne peux pas expliquer avec des explications. Non, ne le fais plus. Donc, on voulait lui dire, ne pas partir, mais il a dit, je vais aller. Après des années, il y revient, il dit, j'avais tort, pardonne-moi, ce que j'avais fait n'était pas... Ne te laisse pas aller dans la voie des pécheurs, fais des mauvaises choses, et puis tu reviens pour dire que j'avais tort dans ce que je faisais. Il faut décider de rester sur la bonne voie. Un jour, j'ai rencontré des enfants des pasteurs, je parlais aux différents enfants des pasteurs, je leur demandais, vous avez été rebelles à vos pères? La plupart d'entre eux ont été rebelles, mais il y avait une qui a dit, je n'ai jamais eu un problème avec mon père. Depuis le jour où je suis né, je n'ai jamais regardé mon père comme bizarre. Je n'ai jamais pensé que sa manière de penser, je n'ai jamais lutté avec lui. Jamais, même pas une fois. Je ne sais même pas si je suis normal, mais je n'ai jamais eu un problème avec mon père. Et je peux voir ça dans sa vie. Je peux voir ça maintenant. Tu peux voir ça clairement dans sa vie. Il faut décider à être quelqu'un qui ne entre pas en conflit. Par quelqu'un qui va faire des mauvaises choses, on va te dire de faire ça, mais tu vas, et après tu vas venir dire que non, j'avais tort. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis en train de parler de comment devenir grand. Oh. Je suis en train de parler de comment devenir grand. Ça reste un seul point, je vais ajouter, mais quelles sont les clés maîtresses? Premier point, il ne faut pas suivre les voies de la jeunesse. Numéro 2. Ne demande pas pour des choses qui sont pour l'avenir. Comme quoi? Le sexe, l'amour, l'éjaculation, des baises, des maisons, l'argent, des voitures, des épouses qui sont pour l'avenir. Étape numéro 3. Ne te déplace pas. N'abandonne pas ta place. Ou bien vous pouvez changer ce point-là. Il faut écrire, restez à la maison. Reste à la maison. Reste à la maison. Pour prouver que tu es là. Pas de mouvement, pas de variation. Je suis là. Après qu'on a crié sur toi, tu es là parce qu'il n'y a pas d'autre place. Après tout ce que j'ai traversé, je suis toujours ici. Ça peut être bizarre, mais c'est ici que je me trouve et je serai ici. Ah oui? Ça prouve quoi? Je n'entends pas. Ça prouve que tu es une bonne personne. La Bible dit que tout le monde déclare sa propre bonté, mais un homme fidèle qui peut le trouver? Tout le monde dit que je suis bon, je suis une bonne personne. Ok, donc disons, numéro 3, reste à la maison et prouve que tu es une bonne personne. Numéro 4, ne t'éloigne pas de la présence de ton père. Sois proche. Numéro 5, ne gaspille pas ta position. Tu reviens, tu dis, tu veux ta position originale. Est-ce que vous savez que vous êtes spécialement positionné à moi? Vous êtes positionné comme des étoiles autour de moi. Quand quelqu'un vient prendre ta place, tu dis, hey, s'il te plaît, tu n'as pas vu mon pied là-bas? Je suis déjà ici. Hein? Vite, ôte tes pieds de là. Je suis ici déjà. Soyez poli, mais il faut demander à la personne, tu ne vois pas mes pieds là? Yeah, ça, c'est ma position spatiale. Numéro 6, ne choisis pas le mauvais style de vie. C'est un style de vie. vont finir votre argent. Moi, je vis une style de vie de construire. Je ne crois pas dans les symboles de la richesse. Si tu viens même pour voler, si tu veux me voler même, il n'y a rien sur moi qui est si cher ou bien des choses, des symboles de... Non, ça va vous rendre riche. Mon style de vie, c'est travailler et construire. La voiture que j'utilise, j'ai besoin de cela pour... Les voitures que j'utilise, j'ai besoin de ça pour travailler. Parce qu'il y a certains terrains, la voiture doit nager, la voiture doit... C'est pourquoi j'utilise la voiture que j'utilise, oui. Je ne suis pas le type, avec un chauffeur, je m'assois derrière, quelqu'un va me conduire et puis... Non, je ne suis pas le type. Moi-même, je vais ramper l'arbre, moi-même, je vais ramper là pour aller voir ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi dans le pays, beaucoup de choses ne se réalisent pas. Numéro 7. Évitez les symboles des richesses. Quels sont les symboles des richesses? Les chaussures, les anneaux, les voitures. Quiconque ici qui dit que moi j'aime des voitures, pas, j'aime des voitures, tu es délivré de telles choses au nom de Jésus-Christ. Toi tu dis que moi je suis un homme des voitures, tu n'es pas un homme des voitures à partir d'aujourd'hui. Tu es en train de t'attacher aux symboles qui vont t'affecter dans l'avenir. Un jour Dieu va te donner des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des grandes choses, les plus grandes choses. Waouh! Donc, les sœurs qui sont habituées aux symboles de richesse, maintenant, quand tu vas aller demander leur main en mariage, tu dois aller avec des clés de voiture, aller faire des bruits un peu avec les clés de voiture. Ces sœurs ne sont pas correctes. Numéro 8. Construis ta maison sur le roc. Quand la famine arrive, tu seras debout. Numéro 9. Ne fais pas ce qui est mauvais et maintenant tu viens dire que, je m'excuse, j'avais tort. Numéro 10, le dernier point. Entre dans le champ et travaille, fais le travail de ton père. Le fils le plus âgé, il venait du champ. Il était allé travailler. Est-ce que vous êtes étonné que maintenant il est un riche? Au lieu d'avoir des fêtes, il est allé travailler. Regarde cette écriture. Il est allé travailler. Et quand il était de retour, il a entendu la musique dans la maison. Il était au champ en train de travailler. Nous tous ici, vous voyez, nous allons travailler pour Dieu. Maintenant, nous sommes en vacances, les gens sont partis à la maison, mais nous allons gagner les âmes. Certaines personnes ne comprennent pas quelque chose très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de culte de la semaine, mais ça veut dire que nous travaillons dans la semaine. Vous voulez quoi? On vous a donné tout. Maintenant, vous devez aussi avoir votre travail. Je veux que vous travailliez. Dis Amen. Hier, on était à l'université. Nous étions à Central University. Qui était là? Qui n'était pas là? Mais vous étiez où? Vous étiez où quand j'avais besoin de vous? Vous étiez en train de travailler? Vous étiez en train d'évangéliser? Qui était ici en train d'évangéliser? Qui n'évangélisait pas? Même pour lever la main, c'est difficile. Oui. Donc, j'aimerais vous encourager, tout le monde ici, vous voyez, à partir de vendredi et samedi, nous tous, nous sommes tous impliqués dans l'évangélisation. Gagner les âmes et faire des suivis. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est ça le travail de Dieu. Relax, laisse ça, on va résoudre après. Amen. C'est la manière de prospérer. Il était au champ, il travaillait et il est devenu le plus riche. Il avait toutes les possessions de son père. Il était dans la maison de son père en train de faire le travail de son père. Nous sommes dans la maison de notre Père Dieu et nous sommes en train de faire son travail. Les gens pensent que je dois être pauvre parce que je prêche l'évangile, le sang de Jésus et le salut. Mais vous voyez, vous ne comprenez pas le travail de Dieu. Il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice et toutes ces choses dont les gens cherchent. Parce que les gens pensent que je ne fais pas des discours motivationnels ou bien des banquines, des choses là. Vous pensez que je dois être pauvre? Qui est pauvre? Il faut venir avec ce que vous avez, on va comparer, voir. Vous êtes en train de montrer seulement des symboles de la richesse. Les symboles de la richesse. Tout le monde ici doit décider. Et votre vie va changer d'une manière drastique. Votre vie va changer. Le jour quand vous vous impliquez dans le travail, quand vous vous impliquez dans le travail du champ, vous entrez dans le champ pour travailler. Tout le monde ici, au lieu de dire, je cherche une bien-aimée, je cherche ça, il faut aller travailler au champ. Ah oui? Il y a certaines personnes qui pensent que nous devons être l'église plus pauvre. Parce que, qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de vous encourager. Il y a deux choses. Gagner les âmes et faire des suivis. Gagner les âmes, s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ça, ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir de vendredi, samedi, tu dois t'impliquer dans le travail, quelque part. Tu dois être impliqué dans le chant. Quand le gars chantait, j'aime dimanche matin. Parce que qu'est-ce qu'on fait dimanche matin? Qu'est-ce qu'on fait? On invite, on gagne les âmes pour l'Éternel. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Dimanche matin, il s'agit de gagner les âmes. Et c'est s'impliquer dans le travail de Dieu. C'est aussi ta chance pour faire quelque chose pour Dieu. Je vous dis, la clé maîtresse à la prospérité ici, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Un frère disait que, vous savez, il était venu dans notre église et il a constaté que je ne prêche pas sur les thèmes de banking, des affaires. Donc, il est allé dans une autre église. Et il a constaté que l'église, maintenant, n'avance pas. Et je lui ai dit, mais tu t'attendais qu'on prêche quoi? Tu prêchais la parole de Dieu. Et alors que nous prêchons la parole de Dieu et nous faisons le travail de Dieu, il faut continuer de nous regarder. Tu n'es pas un croyant. C'est pourquoi tu ne crois pas dans ce verset, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 sera toujours comme de la magie. Tu vas te demander, quels sont les principes financiers que vous utilisez? Vous utilisez quelle technique d'administration? L'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, fais ça. C'est ça que je fais. Le Saint-Esprit me parle. Je prie pour le Saint-Esprit plus que d'autres choses. La Bible est... La Bible est le livre le plus grand que je lis. Je peux même avaler. Je n'ai pas le temps pour lire la biographie de Lee Kuan Yew et George Bush ou bien Steve Jobs. Quand je lis ma Bible, je suis plein. Et je deviens plein. Et on voit les fruits, les grandes œuvres. Le gouvernement ne peut même pas faire certaines choses que nous faisons. Ils ne peuvent même pas. S'ils peuvent, ils n'ont qu'à essayer de faire. sans des prêts. Je me demande où on allait être si on est allé chercher des prêts pour faire ce que nous sommes en train de faire. Qui va s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire? Dis à la personne qui est assise à côté de toi que je te soupçonne, tu élèves ta main, mais je te soupçonne, tu ne travailles pas dans le champ. Soyez guéri de cette maladie au nom de Jésus-Christ. d'une manière prophétique, vous êtes destiné à être grand. 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 Ah oui. Vous êtes destiné à être grand. Vous êtes destiné à être sur le champ en train de travailler. Et vous serez en train de marcher, aller à la maison, mais vous serez mieux que ceux qui sont sortis aller faire des mauvaises choses. Vous êtes mieux que ceux qui sont allés gaspiller leur argent. Toi, tu seras quelqu'un de mieux parce que tu travailles dans le champ de ton papa, tu fais le travail dans le champ de ton père. Les gens vont se moquer de toi, mais ils ne sauront pas que tout ce champ t'appartient. Les gens se sont moqués de moi quand j'étais en train de servir Dieu. Ils ont dit, tu presses les bases. Tu n'as pas de... Quelqu'un m'avait dit que je n'avais pas de révélation. C'est fantastique. La personne qui m'avait dit que je n'avais pas de révélation, aujourd'hui, il est là, il n'a même pas une toile. Il n'a même pas une église, même avec un toit. Père, je vais être sur le champ. Je vais être sur le champ. Je vais être là. Je veux 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 gagner les âmes. Je veux faire des suivis. Je veux que quelqu'un connaisse Jésus. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux être grand comme tu m'as destiné d'être grand. Je veux te servir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Maintenant, élevez vos mains et dis à Dieu que tu vas suivre ces 10 clés, les clés à la grandeur. Tu seras sur le champ en train de travailler. Tu ne vas pas faire de mauvaises choses. Après, tu vas venir dire que, oh, j'ai tort, vous aviez raison. Non, tu vas dire non, je cherche les réalités au lieu d'avoir des... Seigneur, merci, merci, merci. Tu es en train de rendre les jeunes ici dans cette salle des chants. Tu es en train de rendre des jeunes ici comme s'ils étaient des anciennes, des vieux. Merci au nom de Jésus. Merci pour les clés maîtresses qui ont été libérées dans les vies de chacun d'entre nous. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons toute louange. Tout le monde est resté debout pour un moment. Tout le monde est resté debout pour un moment. Est-ce que tout le monde peut rester debout? Père, merci pour ce temps. Mettre la main sur ton cœur. Prier pour tous les 10 clés. Il faut prier. Seigneur, aide-moi à vivre tous ces 10. La fidélité. Dans 10 ans d'aujourd'hui, tu seras permanemment ici, dans la maison de l'Éternel, en train de servir fidèlement. Dans 15 ans, dans 23 ans de cela, tu seras trouvé dans la maison de l'Éternel en train de faire plus, en train de prêcher la même chose 23 ans de cela. Père, merci. Quelle bénédiction que tu as libéré. Merci parce que dans le jour de famine, nous n'allons pas nous effondrer. Mais nous allons se tenir fort et debout. Fort et debout au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te donnons gloire, nous te donnons louange. Alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés, tu es ici aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, mais tu aimerais donner ta vie à Jésus. Peut-être quelqu'un t'avait invité, mais tu n'es pas vraiment un chrétien né de nouveau, mais tu veux être né de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus, tu es ici, comme cela. Alors, élève tes mains, élève ta main comme cela, je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. Pasteur, prie pour moi. Peut-être quelqu'un t'avait invité à l'église, mais Dieu t'invite de venir à lui. Il t'invite pour venir recevoir le salut. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de Jésus. Je ne vais pas aller en enfer. Si tu es là comme ça, je vais prier dans une minute, mais tu dois élever ta main. Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de Jésus. Si tu as élevé ta main, je veux que tu fasses une seule chose. Viens d'où tu viens. Revenir. Viens à moi. Viens devant ici. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Donne-lui ta vie. Oui, viens. Élevez vos mains et dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de tous mes péchés. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait tort. Je m'excuse. Aujourd'hui, je viens à toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Au partir d'aujourd'hui, je reçois le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus. Me laver de tous mes péchés. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Merci Père. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Et je servirai Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.